Kasha throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Panthers FR, épisode numéro 48 avec toujours Guillaume au micro. Et comme vous en avez l'habitude, je suis également accompagné de Thomas. Bonsoir Thomas, comment vas-tu ?
Bonsoir Guillaume, bah écoute, ça va, on va débriefer une victoire cette fois-ci. Donc ouais, c'est toujours mieux de débriefer une victoire sur la forme générale de l'équipe, on va dire que c'est plus sympathique.
Et oui, une victoire la deuxième de suite, et une belle victoire là encore ce dimanche avec un match remporté du côté de Seattle, un endroit où il est jamais facile de gagner, et une victoire qui s'est construite très tôt avec un début de match idéal hein, pour les Panthers qui sur le premier drive ont enchaîné 13 actions, seulement 43 yards de gagné et un field goal au bout quand même, mais surtout l'élément presque le plus important, hein, après les 3 points bien sûr, c'est surtout que les Panthers ont mangé presque 8 minutes du chrono. D'autant que sur la première action de Seattle derrière, J.C. Horn a intercepté Geno Smith et a mis les Panthers, l'attaque des Panthers dans la meilleure situation pour attaquer le drive suivant. Ça aurait pu être un pick six, mais il a trébuché tout seul. Mais c'est pas bien grave puisque sur l'action suivante, Sam Darnold a trouvé Shai Smith pour son premier touchdown en carrière. Et suite à un punt de Seattle sur le drive suivant, les Panthers ont enchaîné un nouveau long drive de près de 7 minutes, ponctué par un touchdown au sol de Chuba Hubbard. Et comme ça, après à peine plus d'un quart temps, les Panthers menaient déjà 17-0. Seattle va revenir au score, hein, 20-14 à la pause pour les Panthers, puis 20-17 pour Seattle qui a récupéré la balle, mais Carolina va tenir bon, enchaîner un bon drive avec malheureusement 0 points au bout, avec 4 tentatives qui échouent en first and goal, hein, on reviendra sûrement là-dessus tout à l'heure, mais derrière la défense continue de bien tenir, et un touchdown au sol de Raheem Blackshear plus un field goal de Eddie Pinheiro permettent à Carolina de reprendre le large. Et en fin de match, voilà, Seattle reviendra avec un dernier touchdown sur le dernier drive. Mais J.C. Horn récupérera l'onside kick et permettra aux Panthers de s'imposer 30-24. Ça paraît peut-être pas comme ça vu la façon dont je le rappelle, mais est-ce qu'on n'aurait pas assisté à... Alors, peut-être pas la plus belle, mais en tout cas une des plus belles victoires des Panthers cette saison, voire même depuis l'arrivée de David Tepper aux commandes.
Bah écoute, ouais, comme tu dis, peut-être pas la plus belle victoire, mais en fait une victoire qui a été quand même sympathique dans la mesure où elle a été maîtrisée sur plusieurs aspects du match, quoi, parce que là comme tu l'as signalé à plusieurs reprises. On a réussi à faire tourner l'horloge quand on avait le ballon, à faire des drives assez longs, donc avec des drives environ de 8-7 minutes. C'est des choses qui comptent, parce qu'on se rappelle un peu du début de saison où on se faisait bouffer, mais un truc pas possible en termes de temps de possession de la balle. C'était un peu catastrophique. Donc là, à ce niveau-là, on sent vraiment qu'il y a eu quelque chose sur ce match. Défensivement, ça a plutôt bien tourné. Offensivement, il y a eu des petits bémols, quelques-uns bien sûr. Mais globalement, ça a tourné. C'est une équipe qui s'est pas laissée submerger. Il y a cet échec devant l'embut des Seahawks. Mais globalement, non, ça a bien tourné. Surtout que je partais pas spécialement optimiste entre guillemets avant le match, dans la mesure où Seattle était sur une dynamique de saison en fait où on les attendait peut-être pas nécessairement. Si on réécoute le podcast le dernier, j'étais plutôt pessimiste sur le score final. Mais on s'en est super bien sorti et franchement on a retrouvé un peu de plaisir encore sur cette saison et on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que le coaching staff y est pas pour rien.
Ouais, clairement c'est une victoire j'allais dire classique, alors c'est pas forcément le terme, mais en tout cas c'est la formule qui fait gagner Carolina avec un gros jeu au sol et surtout un jeu physique, hein, autoritaire. On a senti que, voilà, c'est comme on le disait la dernière fois, mais avec Deonta Foreman notamment, c'est, il n'y a jamais ou rarement des gros gains de 20, 30 ou 50 yards, par exemple. Par contre, sur chaque course, c'est 4, 5, 8 yards qui sont gagnés. Et surtout, voilà, vraiment physique, quoi. Et on sent que cet enchaînement de longs drives, comme tu le rappelais, hein, avec les durées, c'est à la fin du match, bah, ça se ressent, hein, sur la défense de Seattle. Et ça permet aux Panthers, effectivement, de passer plus de temps sur le terrain offensivement et, à l'inverse, de reposer leur défense qui, tu faisais la comparaison avec le début de saison, bah, c'était tout l'inverse, hein, une défense qui s'épuisait sur le terrain parce que l'attaque rendait la balle trop vite et on le payait en fin de match. Et là, bah, voilà, c'est l'équipe offensive qui contrôle l'horloge avec pas forcément un gros jeu de la part du quarterback, hein, on l'a dit, c'est surtout vraiment un gros jeu au sol. 46 courses pour 24 passes hier, donc on est dans ce ratio de 2 tiers, 1 tiers pour le jeu au sol. 223 yards et 2 touchdowns, hein, glanés par les coureurs, contre seulement 120 yards et 1 touchdown pour Sam Darnold, qui ne fait pas de faute, hein, il ne perd pas le ballon, aussi bien en interception qu'en fumble, il y a une ou deux fois où c'était pas trop loin. Mais c'est ça, je crois, la formule pour faire gagner les Panthers.
Ouais, bah, pour l'instant, c'est quelque chose qui fonctionne. Comme tu dis, ouais, on a un Darnold qui est pas flamboyant, mais bon, qui fait pas non plus, qui a pas non plus fait de grosses erreurs. Bon, alors, on a parlé notamment sur le dernier match où on avait eu un play un peu Darnoldesque avec son touchdown où il nous fait un roulé-boulé. Mais non, globalement, ouais, c'est comme tu dis, bah c'est la formule qui marche. Voilà, on se repose pas mal sur un jeu de course. Puis, bah, pour l'instant, ça fonctionne et c'est quelque chose qui, en fait, qui fait plaisir à voir parce que ben il y a de l'impact en fait dans le jeu. Il y a de l'impact dans les courses. On essaye d'aller gratter du yard pour aller chercher le force down, pour aller grappiller un peu les yards à droite à gauche. Non, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Et puis voilà, on a des joueurs en fait, notamment Terrence Marshall Jr. qu'on n'avait pas trop vu, qui nous sort quand même une superbe réception, comme tu. Enfin, voilà, et franchement, c'est une formule qui marche pour l'instant. Donc après voilà, on sait que les équipes, c'est toujours un temps d'adaptation en face et que ça peut s'arrêter très vite. Mais globalement, non, pour l'instant, c'est la formule qui tourne.
Ouais, en n'en demandant pas trop au quarterback parce que on l'a vu. On parlait donc de cette série avec les 4 échecs sur la goal line. 4 passes et 4 échecs. Alors, une petite course aurait pas fait du mal. Il y a une ou deux passes qui sont pas loin, mais qui sont soit pas forcément dans le timing. Je pense à la première vers DJ Moore, ou alors bien défendue juste par la défense. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça marche comme technique. Par contre, c'est vrai que moi, je suis pas prêt à faire confiance à Sam Darnold. Et dans le sens où, voilà, le jour où on va avoir besoin de se reposer un peu plus sur le jeu aérien, j'ai peur que ce soit un peu juste. Et voilà, ça ne résout très probablement pas les questions qu'on a sur le poste de quarterback. Je pense qu'on va en avoir tout l'intersaison. Mais. Pour l'instant, voilà, en s'appuyant sur Deonta Foreman, sur Chuba Hubbard, qui fait mine de rien une belle saison, je trouve. Hein. L'an dernier, il était un peu en dedans. Je ne sais pas ton avis sur lui, mais là, il fait un très beau match. Et même globalement, sa saison est assez convaincante, je trouve.
Ouais, non, globalement, comme tu le dis, ouais, sa saison, elle est convaincante. D'autant plus que, voilà, comme je disais, voilà, on a un jeu de course qui fait plaisir, notamment avec Foreman. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour l'instant, se reposer sur le jeu de course, et c'est aussi quelque chose qui repose énormément sur la performance de la ligne offensive, qui s'est beaucoup améliorée par rapport à la saison dernière. Ça a encore super bien tourné sur ce match. J'étais en train de regarder rapidement les petites stats de Chuba Hubbard sur la saison. Ouais, on est à 250 yards avec une moyenne de 4,6, donc c'est notre coureur numéro 2. C'est quelque chose qui est pas mal. Là, il nous en fait 74 sur le dernier match. Donc, non, c'est. Voilà, ça permet de tourner un peu offensivement, quoi.
Ouais, c'est un vrai comité de coureurs hein, avec Bard, Foreman et même Blackshear, hein, belle trouvaille. Il met un touchdown au sol sur ce match. Mais voilà, ça alterne sur les trois. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc on espère que ça continue. Tu mentionnais la ligne offensive, effectivement, c'est une des grandes raisons hein, pour lesquelles ça fonctionne. Hein. Ike Ekwonu qui ressemble de plus en plus à un joli pic. Une mention quand même aussi pour les linemen de rotation, notamment Cameron Irving qui l'an dernier a été assez cata en tant que left tackle titulaire. On le voit pas mal dans des rôles de sixième lineman, hein, des formations avec des linemen additionnels pour ouvrir des brèches. Il est plutôt très bon à ce niveau-là, donc c'est à mentionner. Et Cade Mays aussi qu'on voit pas mal dans un rôle de fullback. Donc c'est voilà, c'est des petites approches que c'est un peu la patte Steve Wilks, quand même, parce que c'est vrai que Matt Rhule ne les utilisait pas trop. Mais voilà, là clairement, c'est des joueurs que moi je voulais mentionner parce que on les voit pas souvent. La ligne offensive, jusque-là, je touche du bois, a été épargnée par les blessures, hormis celle de Pat Elflein, remplacée. Très avantageusement, j'ai envie de dire, par Bradley Bozeman, mais sinon, c'est vrai que les quatre autres sont là depuis le début. Donc, on espère que ça va continuer. Et voilà, sinon, pour l'instant, cette technique fonctionne. Du coup, on voit un peu moins les receveurs. DJ Moore, pas de réception sur ce match. Terrence Marshall Jr., il en fait une incroyable. Je ne sais pas encore aujourd'hui comment il a fait pour attraper ce ballon. C'est difficile de juger un peu les receveurs, je sais pas ce que t'en penses, sur avec un ADN d'équipe comme ça, quoi.
Bah, c'est ça, surtout avec un Sam Darnold où on sait pertinemment qu'on se repose pas beaucoup dessus. Voilà, quand on voit ses stats, 14 sur 24 pour 100 yards, voilà, on sait pertinemment que du coup les receveurs ont pas eu des matchs flamboyants. Mais ouais, c'est peut-être quelque chose qui va être amené à changer, c'est même quelque chose qui va nécessairement être amené à changer quand on aura un changement de quarterback la saison prochaine. Donc, enfin, du moins, c'est la direction qu'on prend. Mais voilà, globalement ouais, c'est quelque chose de normal.
Je pense qu'on a fait le tour sur l'attaque. Je te propose qu'on passe du côté de la défense, où moi, le gros point que j'ai retenu de ce match, c'est surtout l'absence de jeu au sol accordé aux Seahawks, à l'inverse. Alors, faut préciser quand même que leur running back, Kenneth Walker, titulaire, n'était pas là. Mais du coup, les Seahawks terminent à 46 yards en 14 courses. Ça fait à peine 3 yards par course, donc voilà, vraiment une belle défense, notamment grâce, encore et toujours, j'ai envie de dire, à l'intérieur de cette ligne et d'Eric Brown notamment.
Je pense qu'on pourrait le mentionner quasiment sur tous les matchs de la saison. C'est la pierre angulaire en fait une des pierres angulaires de cette défense. Cette saison, il s'est vraiment révélé comme un monstre sur cette ligne. Et c'est un peu à l'image de Ekwonu, hein. c'est des joueurs où on regrette absolument pas le pic à ce niveau-là. Quoi.
Une autre pierre angulaire sur cette défense, là encore, ou alors, pour le coup, on a un peu regretté le pic au moment où il a été fait, on va pas se mentir. Enfin, on a regretté le non-pic surtout, mais faut reconnaître que Jesse Horn fait lui aussi une saison incroyable à l'image de ce match, où il a réalisé l'interception sur la première action offensive de Seattle. Et c'est lui qui scelle un peu la victoire en récupérant cet onside kick. C'est un petit peu tout un symbole. Entre les deux, il a plutôt bien tenu face à Dickey Metcalf, alors qu'il termine avec des stats correctes, mais il n'a pas toujours été aligné face à Horn. Vraiment, belle révélation pour Jesse Horn cette saison.
Ouais, non, globalement, ouais, c'est ça. Bah, pour moi, c'est mon top du match. J.C. Horn, je pense que voilà, sur le compte, ouais, j'étais peut-être l'an dernier, au moment de la draft, j'étais peut-être, c'était mon côté un peu chauvin des Gamecocks, mais j'étais peut-être celui qui était entre guillemets le plus satisfait de cette sélection. Il y avait eu la déception que l'an dernier puisse pas jouer à cause d'une blessure, mais cette saison, il est sur une super dynamique. Il y a la stat qui est sortie là sur les passer rating vis-à-vis des cornerbacks, Et en fait, il a le plus bas rating pour n'importe quel quarterback dans la ligue. Contre lui, les quarterbacks sont à 35,8, ce qui est mais ridicule, enfin ridicule, très très bas. Le second, bah c'est un ancien de chez nous, c'est James Bradbury d'ailleurs. Donc voilà, ça montre à quel point il est assez solide. Et puis ouais, bah il nous fait un super match avec une jolie petite interception et la réception. Et là, le recovery de l'onside kick en fin de match, quoi.
Ouais, je peux pas m'empêcher de penser que l'arrivée de Steve Wilks en début de saison comme coordinateur défensif au niveau des cornerbacks a dû jouer dans l'explosion de Jesse Horn, en plus de son talent qu'il avait de base. Un autre defensive back qui est très solide aussi sur ce match, c'est Jeremy Chin, qui fait beaucoup de bien dans le backfield défensif depuis son retour de blessure. D'autant plus que il n'y avait pas Xavier Woods à nouveau dimanche. C'est encore un jeune autour de qui les Panthers vont construire cette défense. Et il fait beaucoup de bien, comme je le disais, quoi.
Ouais, c'est ça. Ben on était content de le retrouver après son petit passage sur la liste des blessés. Mais ouais, il nous fait des choses solides. On est content de le retrouver parce que on avait eu des petits passages à vide un peu par moment, mais là globalement on est pas mal du tout. Franchement, d'un point de vue défensif, on se répète encore, mais globalement ça tourne.
Puis il apporte il apporte un peu de stabilité peut-être autour de tous ces jeunes ou ces joueurs un petit peu de rotation, sans vouloir leur manquer de respect, hein, que sont les Keith Taylor, les Miles Hartfield ou les CJ Anderson par exemple. Mais c'est vrai qu'avec Jeremy Chin, on sent que ça il tient un petit peu tout ça. Et puis bien sûr, on les nomme pas chaque semaine, mais toujours Frankie Louvou, Shaq Thompson, Brian Burns qui sont toujours là. Mais il y a effectivement des jolies pièces dans cette défense. Et alors je sais pas si on peut dire qu'elle est parmi les plus sous-cotées de la ligue, mais en tout cas, elle surprend régulièrement les attaques adverses. Et tant que ça tient comme ça, on en profite et ça permet aux Panthers d'engrainer une belle victoire. Au niveau équipe spéciale, pas grand chose à ajouter par rapport à la semaine dernière et aux habituelles félicités de cette colonne, j'ai envie de dire. Et Dipiniero, je continue avec mon supporting d'Eddie Pinheiro qui termine un nouveau match à 100%. Il y a guère que ces deux coups de pied contre Atlanta un peu décevant, mais voilà. Sinon c'est très solide. Et puis JJ Johnson qui atteint donc ce total de 222 matchs autant que Panthers. Il avait égalé John Casey il y a 15 jours, il le dépasse maintenant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Pinheiro, Jensen ou un autre?
Sur Pinheiro, ouais, je vais ajouter. Je l'avais soutenu j'avais soutenu. Je s'en fout de l'autre côté de l'Atlantique, mais voilà. Mais après le match contre Atlanta où il nous manque les field goals, mais pareil. Enfin, c'est l'instant stat encore une fois, mais il est en termes pour plus de 20 field goals tentés. Il est deuxième en termes de taux de réussite, justement juste derrière Myers des Seahawks. Donc ouais, non, ça tourne, quoi, ça convertit. Il y a ces deux erreurs contre Atlanta qui nous coûtent le match, mais sinon c'est solide, quoi. On est niveau équipe spéciale, ça tourne aussi pas mal, quoi.
Et donc c'est tout bon à ce niveau-là. C'est tout bon aussi du côté du coaching, j'ai envie de dire, puisque alors le play calling, on le disait offensivement, c'est pas toujours un flamboyant, mais ça fonctionne. Et surtout avec cette victoire à Seattle, je le rappelle à nouveau, c'est jamais facile d'aller gagner là-bas. Et si vous rappelez du début du match, l'ambiance dans le stade était vraiment très hostile, avec un gros public comme à chaque fois. Mais surtout, il y a un joli enchaînement qu'ont réussi les Panthers sur ce match, puisque c'est la première fois qu'ils réussissent à enchaîner deux victoires consécutives cette saison. De surcroît, la première victoire à l'extérieur de la saison. Et en plus, une victoire face à une équipe avec un bilan positif. Alors, certes, pour une équipe classique de NFL, c'est pas forcément des éléments incroyables, mais en tout cas, voilà, pour les Panthers, c'est une première. Et les Panthers qui passent à 4-4 sous Steve Wilks. Hein. Donc voilà, il y a une petite dynamique qui s'installe. Plutôt satisfaisant tout ça, non?
Ouais, non, clairement. Tu me posais la question sur le dernier podcast vis-à-vis de si je voyais Steve Wilks rester la saison prochaine. Bah, j'avoue que bon, c'est peut-être encore tôt pour se projeter à ce niveau-là, mais j'avoue qu'avec un match comme ça et ouais, bah, pour prendre les mêmes arguments, la dynamique qu'il a réussi à remettre en place vis-à-vis de l'équipe, bah, c'est quelque chose qui tourne, c'est quelque chose en plus où on reprend du plaisir, en fait, à voir les matchs, là où, bah, en fait, le début de saison était quand même assez terne et morose, quoi. Donc, ouais, non, c'est assez satisfait, franchement, au niveau du coaching staff, on est pas mal, quoi. Comme tu dis, c'est pas toujours flamboyant offensivement. Ça manque de panache et d'envie, mais bon, après voilà, tu te dis sur la saison t'as eu quand même du PJ Walker, t'as eu du Sam Darnold, t'as eu du Baker Mayfield. Ouais, c'est difficile, quoi. On n'a pas été super gâtés à ce niveau, donc à voir l'an prochain, notamment avec un meilleur quarterback.
On verra ce que décide de faire David Tepper. Hein. Bien évidemment, on n'aura pas vraiment voix au chapitre dans la sélection du prochain head coach, hein, je pense pas. Mais en tout cas, j'en serais très surpris. Mais en tout cas, voilà, clairement, Steve Wilks fait plus ou moins tout ce qu'il peut pour au moins être considéré dans la discussion, parce que c'était difficile d'envisager cette dynamique pour les Panthers, hein, après les deux saisons et demie qu'on a eues jusque-là. Mais voilà, donc en tout cas, ça fonctionne. Et on espère que ça va fonctionner encore la semaine prochaine face à Pittsburgh. Donc ce sera à domicile pour Carolina. Une équipe des Steelers donc, qui a le même bilan que les Panthers, 5-8. Mais surtout que Carolina, j'ai vu la stat, n'a pas battu depuis 26 ans. Ça remonte à 1996. Les Panthers sont sur une série de 6 défaites consécutives face aux Steelers. Puisque, évidemment, vu qu'ils sont en AFC, les Panthers ne jouent les Steelers que tous les 4 ans. Ça explique un petit peu que cette durée de 26 ans. Mais voilà, ce serait peut-être... bien de mettre fin à cette dynamique. Comment tu vois ce match? Il y a pas mal de questions du côté de Pittsburgh au niveau du poste de quarterback. C'est peut-être plus la défense qui va inquiéter.
Ouais, non, pas mal d'interrogations avec un... Il me semble que Trubisky est rentré dans le match, dans leur dernier match, parce que Pickett a dû se blesser un tout petit peu. Pas mal d'interrogations à ce niveau. Après, défensivement, il y a du talent du côté de Pittsburgh, notamment avec un TJ Watt. Après ouais, je vais pas le cacher, c'est pas une équipe que je connais énormément sur cette saison. Donc ouais, non, ça va être pour moi, ça va être un peu l'inconnu sur ce match. Un peu de difficulté à se projeter. Ouais, pourquoi pas aller, je pense qu'on peut la victoire peut clairement se jouer, surtout voilà avec deux équipes qui ont un bilan similaire. Ça peut se faire largement, quoi. Un peu à l'image de ce qui s'était passé contre Denver.
Derrière, il restera donc 3 matchs contre Détroit, Tampa et la Nouvelle-Orléans. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il faut que Carolina en prenne 3 sur les 4 pour être sûr d'être en play-off tant qu'ils battent Tampa. C'est-à-dire qu'il faut battre Tampa en avant-dernière semaine. Et si les Panthers battent les Bucks, je crois qu'ils ont besoin de faire 2 sur 3 sur les autres matchs pour se qualifier en play-off. Ce sera à vérifier, mais en tout cas, on n'est pas si loin d'y aller. Quand même, hein.
Ouais, on n'est pas loin, alors que on est vraiment dans une division qui est super faible cette année, avec Tampa qu'on s'attendait pas à avoir entre guillemets aussi bas, bon, qui a pas été épargné par les blessures certes, mais c'est une division qui a été super ouverte. Après, je t'avoue que ouais, sur ces 4 derniers matchs, je vais peut-être changer un peu d'avis par rapport au dernier podcast, mais je nous vois possiblement en prendre 3, parce que j'avoue que le match contre Détroit me fait assez peur, parce que Détroit, c'est une équipe qui commence vraiment à ressembler à quelque chose, enfin, du moins, il y a de l'envie, ça tourne, donc peut-être 3 matchs, pour moi, c'est clairement envisageable.
Ouais, c'est vrai que les Lions sont sur une belle dynamique, mais ce sera le au menu de la semaine prochaine. Alors je ne sais pas si ce sera au menu d'un podcast, parce que on verra avec, évidemment, comme on le disait la dernière fois, avec les fêtes de Noël qui approchent, les emplois du temps commencent à être un petit peu plus compliqués. Mais on va essayer. On va essayer de caler ça. Et puis, en espérant, voilà, débriefer une troisième victoire, peut-être, consécutive, on l'espère. Et puis, en tout cas, il me reste à te remercier d'avoir enregistré cette émission avec moi.
Bah, écoute, merci à toi.
Il nous reste bien évidemment à vous remercier de l'avoir écouté. Et pour la suite, on vous donne rendez-vous, on ne sait pas quand, mais en tout cas sur Twitter, de toute façon, pour une nouvelle émission ou en tout cas des nouvelles infos. À très bientôt, ciao.
Ciao.